subtil qui va nous aider à entrer plus loin dans cette saisie intellectuelle, je dis bien pas rationnelle. La raison n'y comprend rien. La raison, elle n'est jamais devant un principe. Elle est devant les lois. Et la mentalité européenne, pour ne pas dire mondiale, aujourd'hui, par le positivisme, c'est d'identifier loi et principe. Et c'est sûrement une très grande difficulté intellectuelle, affectivement, vous embrassez le principe et la loi. Affectivement. Parce que, affectivement, vous ne saisissez jamais un principe. C'est curieux. Le plus ou moins grand autonome du sujet, autonomie personnelle ou de compétence ou psychologique, ne suscite-t-elle pas aussi la recherche d'un premier du point de vue de l'être, au-delà du sujet? Autrement dit, ce dépassement du sujet, et je prie exprès ce dépassement du sujet en regardant le sujet au niveau logique. Parce qu'au fond, c'est là où le sujet joue un certain rôle, je dis un certain rôle de principe. Le sujet rassemble tous les attributs. Pierre, il est grand, intelligent, et ainsi de suite. Donc, il rayonne, hein. C'est le sujet, là. Et c'est très vrai, voir le sujet au point de vue logique, dans le langage, c'est très important, voir le sujet. Où il reçoit toutes les injures, où il reçoit tous les compliments. Le sujet, comme sujet, est indifférent à l'un et à l'autre. Il est capable, capax, capable. Et en logique, on a beaucoup réfléchi sur cette capacité du sujet de recevoir toutes ses déterminations et toutes ses négations. Le sujet est capable de recevoir la négation. Donc il est au-delà de la négation puisqu'il la reçoit. Il est au-delà de toutes les déterminations comme sujet puisqu'il est capable d'être recevoir à tribut. Vous voyez, là, vous voyez tout de suite la différence de la logique aristotélicienne qui distingue bien sujet et attribut. Pierre est grand, Pierre est intelligent, Pierre est petit. Le sujet reçoit toutes ses attributions, il est au-delà de toutes ses attributions, il les supporte. Il les supporte, il est capable de les supporter. Alors on peut donner des attributions que le sujet ne supporte plus. Non supponit, c'est le fameux problème de la supposition, point de vue logique. C'est intéressant du reste. Au XVIe siècle, la logique aristotélicienne avait développé énormément le problème de la supposition. Supponit. Le latin dit très bien ça. Est-ce que ce sujet supponit cet attribut ? Est-ce qu'il reçoit cet attribut ? Un sujet qui ne reçoit pas cet attribut, vous dites « Pierre est éternel ». Pierre non supponit éternel. Pierre est éternel. Comme Pierre, comme tel, il n'est pas éternel. Il est capable de mourir. L'homme, l'individu, vous voyez, quand vous dites il est éternel, alors on peut dire tout de suite non supponit. Il ne supporte pas. C'est très difficile à traduire. Hein, il ne supporte pas cet attribut. Il est incapable. Cet attribut le déborde. Non supponit. Alors, ça, au point de vue logique, c'est très intéressant. C'est tout le problème de la supposition supponit. Il faut au moins comprendre que ça a existé et qu'au XVIe siècle, toute la logique était autour du problème. XVIe et XVIIe étaient autour de la supposition non supponit. Vous voyez, le sujet est capable de recevoir un certain nombre d'attributs. Mais il y a des attributs qui débordent le sujet, non supponit. C'est un terme logique extrêmement intéressant. Et il y a eu des livres entiers sur la supposition. Que ça veut dire quand on dit non supponit, il ne supporte pas. Ça touche le problème du sujet, ça, voyez. Le sujet, il est capable de supporter un certain nombre d'attributs. C'est sûr. C'est le propos du sujet. Il est au-delà de ses attributs. Alors, il a la capacité de leur donner l'existence. Mais il n'est pas capable de donner l'existence à n'importe qui. Non supponit. C'est débordement. Bon, alors, vous voyez, le sujet comme tel subsiste en lui-même. Pierre est grand. La grandeur n'existe que grâce à Pierre. Elle existe en Pierre. La grandeur n'existe pas en soi. L'attribut ne subsiste pas en soi. Il est relatif. Et subsiste grâce à l'autre. Alors, le sujet... subsiste en lui-même et pour les attributs. Du fait qu'il subsiste en lui-même, est-ce que ce n'est pas la substance ? Alors là, il y a un petit problème qui s'est très développé en scolastique, qui s'est très développé en théologie, de voir la différence entre le point de vue du sujet qui existe en lui-même. Le sujet, il existe en lui-même. Le sujet n'est pas relatif à un autre sujet. Si le sujet est relatif à un autre sujet, il n'est plus sujet. Le sujet comme tel, c'est un certain absolu. Alors, quelle différence entre cet absolu et cet absolu que nous saisissons au plan métaphysique en disant que la substance, principe propre de ce qui est. Vous voyez, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que c'est tout le problème moderne de Heidegger. On ne cherche pas la substance, mais on cherche la subsistance. Vous voyez la différence ? La substance, principe. Subsistance, la manière d'exister de ce principe. La manière d'exister de ce principe, c'est un pos au point de vue philosophique. C'est un comment. Ce n'est plus le principe. C'est une manière d'être. C'est au fond l'erreur fondamentale de Heidegger, c'est de confondre le principe et sa manière d'exister. C'est une subtilité intellectuelle qui est non pas du tout une subtilité inutile, mais qui est absolument nécessaire pour saisir ce que c'est que le principe comme principe. C'est très vrai de dire que le principe comme principe subsiste. Quand je saisis la substance comme principe, je peux dire tout de suite la substance philosophiquement. Elle subsiste et elle permet aux autres de subsister. Subponit. Elle permet aux autres de subsister. Que la substance subsiste en elle-même et par elle-même, ce n'est pas la même chose que la substance. Vous voyez, c'est un petit peu subtil, parce qu'on est au cœur de la métaphysique. Et par le fait même, c'est forcément un petit peu subtil. Mais le principe comme tel n'est pas abstrait. La différence de la loi. Une loi est toujours abstraite et elle est le fruit de la logique. C'est l'homme qui... C'est pas Dieu qui a fabriqué les lois. C'est l'homme. Toute espèce de loi, ça vient de l'homme. C'est pour ça que l'homme aime tellement la loi. Un petit amour personnel extraordinaire. Réfléchissez, vous, on aime la loi. On la critique tout le temps, c'est pour ça qu'on l'aime tellement. La loi, ça vient de l'homme. C'est l'homme qui a inventé les lois. Et il aime les lois. Toute la politique repose sur les lois. L'œuvre politique, c'est de faire des lois. Et quand la politique commence à faire des lois qui sont fausses, la politique elle-même est fausse. Des lois qui tu es. Et je te vois dans mon fruit. Un bon arbre ne donne que de bons fruits. Un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Alors, si on établit une loi fausse, si un État établit une loi fausse, c'est un problème très actuel, ça. Hein, la métaphysique a un regard là-dessus. Si vous établissez des lois fausses, est-ce que ces lois sont encore des lois ? Ou est-ce qu'ils sont tout simplement l'exaltation de l'homme qui veut dominer ? Et qui veut dominer dans un domaine qui ne relève pas de son domaine. Donc, il domine orgueilleusement. Quand vous dominez orgueilleusement, vous dominez sur un domaine qui n'est plus le vôtre. C'est ça, l'orgueil. Un dépassement de la nature. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand on ne veut pas le voir, et qu'on veut que la loi, parce qu'elle est loi, elle est nécessairement bonne, à ce moment-là, on ne sait plus ce que c'est que la bonté. La bonté tombe dans la relativité. Il n'y a donc plus de finalité. C'est très grave, ça. Et il faut le saisir. Et quand on est devant la substance, on comprend tout de suite la différence qu'il y a entre un principe, ce qui est premier, ce qui n'est pas relatif, ce qui est par soi. Le principe, il est intelligible par lui-même. Il ne cherche pas son intelligibilité chez l'autre, chez le sujet. Tous les attributs cherchent leur intelligibilité dans le sujet. Pierre est intelligent. C'est Pierre qui m'aide à comprendre ce que c'est que d'être intelligent. Pierre est intelligent. Si je coupe l'intelligence de Pierre, ah, je vois l'intelligence comme telle. Mais l'intelligence comme telle, elle n'existe pas. C'est Pierre qui est intelligent. Le sujet existe et il est principe d'existence. C'est quand même, c'est quelque chose. S'il est principe d'intelligence, il est donc ce qui permet à la réalité d'exister. D'exister toujours en soi, pas à l'aide d'un autre. Il existe en lui-même, il s'impose. Exister en soi-même, c'est s'imposer. Le principe s'impose à l'intelligence. Et l'intelligence, devant un principe, où elle le connaît, elle reconnaît ce qui est principe et ce qui est la bavure du principe. Sa manière d'exister. La manière d'exister du principe, vous voyez, je dis la bavure, parce que ce n'est pas le principe dans sa pureté. Il est, la plupart du temps, on confond principe et sa manière d'exister. Heidegger est dans le milieu dans lequel il était. Il a fait un progrès énorme. Mais Heidegger, c'est très curieux, Heidegger. C'est un personnage très, très intéressant. Catholique, protestant, je ne sais pas trop, protestant, catholique. Il est mort catholique, mais il agissait comme un protestant. Heidegger, est-ce que Heidegger était pour Hitler ou pas Hitler? On en a beaucoup dit. Discutait. Et vrai, c'était pas commode pour un philosophe d'exister sous Hitler, de dire ouvertement Hitler exagère, Hitler c'est pas juste, c'est faux. Il fallait distinguer la manière d'exister et le principe. Réfléchissez beaucoup là-dessus, parce que ça c'est très important, la manière d'exister et le principe. Alors prenez des exemples très simples qui vous disent quelque chose. Vous voyez la manière d'exister, le principe. La manière d'exister d'un principe, c'est d'exister comme principe. Or, exister comme principe, c'est d'exister par soi et en soi, indépendamment des autres. C'est l'autonomie. C'est le principe qui me fait comprendre ce que c'est que l'autonomie. d'être soi-même. C'est pas commode d'être soi-même. Pensez-vous, petit examen de conscience, combien d'activités dans votre journée est vraiment de vous? Combien d'activités dans vos journées sont dépendantes des autres? Donc, vous ne subsistez pas quand vous existez en dépendant des autres. Ah tiens, vous existez grâce aux autres. Ah, c'est la grande difficulté de vivre en communauté. C'est que des gens qui vivent en communauté, au bout d'un certain temps, ils n'existent que dans la communauté. On les retire de la communauté, il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont jamais existé par eux-mêmes. Tiens, tiens. Jamais existé par eux-mêmes. Ils ont toujours existé en fonction des autres. Je fais tel acte parce que l'autre le fait. Oui, c'est très bien. Quand on est en procession, c'est très bien de suivre monsieur le premier. On suit l'autre. C'est très curieux, les processions à ce point de vue-là, de regarder les démarches de procession. Il y en a toujours qui sortent de la procession. Toujours. Se mettre le premier. Ah. Dès qu'ils sont le premier, ils ont l'impression de sortir, mais ils regardent toujours par derrière si les autres suivent. Si les autres ne suivent pas, ils disent « Ah, je me trompe ». Donc ils sont dépendants des autres, ils ne sont pas premiers. Ah tiens, ils ont la manifestation du premier, mais ils ne sont pas premiers. Ils manifestent d'être premiers. Tout le monde dit « Ils sont premiers ». Attention, en réalité, ils ne sont pas premiers du tout. Ils suivent le troupeau. Est-ce que c'est eux qui suivent le troupeau ou est-ce que c'est le troupeau qui les suit? Ah, c'est réciproque. Ah oui, là j'ai compris. Vous voyez, c'est ça la subsistance. Hein, il faut la saisir concrètement. Ce qui est autonome. Pas commode de savoir ce que c'est être autonome, d'être soi-même. Un principe, il est lui-même. Principe. Il a toute son intelligibilité en lui-même et par lui-même. Un principe subsiste. Alors, quand vous dites un principe subsiste, est-ce que la substance, comme telle, subsiste en elle-même? J'ai dit, l'âme humaine, elle est substance. La substance, c'est pas l'âme, mais l'âme, c'est la substance. Hein? Mon âme, c'est ma substance. Mon âme me fait subsister et d'avoir mon autonomie dans ma vie. Et me permet d'avoir des activités qui proviennent de moi et dont je suis responsable. Et mon âme me rend responsable de mes activités. Quand je suis responsable de mes activités, je considère mon âme justement comme un principe. Si je suis dépendant des autres dans mon activité, je le considère que mon âme n'est pas un principe de vie. Je suis relatif aux autres. Et je vis en dépendance des autres. Vivre en dépendance des autres, ce n'est pas l'autonomie. Je dirais là, mon autonomie de mon âme, elle est partielle. Ah oui, je comprends, elle est partielle. Mon âme est une substance. Je ne dis pas qu'elle est la substance. Elle est une substance. Elle me permet de subsister, d'avoir mon autonomie, une certaine autonomie vitale, mais pas une autonomie absolue, pas une autonomie absolue. Je suis dépendant de tout un milieu. Et du fait même que je suis dépendant de ce milieu, je ne subsiste pas par moi-même. Je subsiste grâce à ce milieu. Et ce milieu est tellement fort qu'à certaines fois, je subsiste en fonction de ce milieu. Je serai seul. Qu'est-ce que je ferai ? Vous voyez, l'autonomie, ça peut se saisir, hein, psychologiquement. Vous saisissez votre autonomie. Vous savez bien que votre autonomie est relative. Elle n'est pas absolue. Vous ne dites pas au père maître, je suis autonome. J'ai compris le cours sur la substance. Mon âme est substance. Je suis donc autonome. Alors le Père me dirait, donc, j'ai plus besoin d'exister pour vous. Je subsiste pour vous dans la mesure où vous comprenez qu'il y a dans votre vie une certaine relativité. Que vous n'êtes pas entièrement autonome. Vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas entièrement. Le principe que je saisis, la substance, elle est principe d'être, elle est principe de vie, dans un certain contexte, dans un certain milieu. Arriver à distinguer, et ça c'est très important, le principe et sa manière d'exister. Le principe n'est pas abstrait. Il n'est pas abstrait, le principe. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous fabriquez vous-même. Ce n'est pas un être raison, c'est une réalité. Une réalité que je respecte. Donc, une réalité qui subsiste en elle-même, comme principe. Mais qui subsiste en elle-même, donc, quand je dis... C'est une réalité qui subsiste en elle-même. Je distingue donc, d'une façon ultime, la différence entre le principe et sa manière d'exister. Distinction capitale que Heidegger ne fait pas. Il reste dans la manière d'exister. La manière d'exister n'est pas un principe. Manière, c'est relatif aux autres, ma manière d'exister. On dira, cette personne, elle est parfaite, mais elle a un sens un tout petit peu trop aiguisé de sa perfection. Et donc, elle veut subsister toujours en elle-même d'une façon unique. Subsister n'est pas un principe. Ma manière de subsister, c'est pas un principe. C'est une manière d'exister. Alors, c'est capital à distinguer, ça. Et c'est une distinction que nous devons faire, ayant saisi la substance. Ma substance, c'est mon âme. Comment existe-t-elle, mon âme ? Ah, elle existe dans mon corps. Ah, tiens. Elle existe dans mon corps. Vous n'existez pas en dehors de votre corps. Alors, mon corps est donc principe ? Non. Il est votre manière d'exister. Ah, tiens. ma manière d'exister, c'est d'exister avec un corps. Et je ne peux pas exister en dehors de mon corps. Et c'est vrai, ma manière d'exister avec, dans mon corps, c'est quelque chose de particulier. J'ai toujours envie d'exister et de subsister au-delà de mon corps. La grande tentation. Et donc la grande tentation, à ce moment-là, c'est d'ériger le principe en manière d'exister. Ah tiens, tiens. C'est l'orgueil métaphysique le plus subtil. Mon âme est substance. Donc mon âme a sa manière propre d'exister. Et mon âme, sa manière propre d'exister, c'est de ne pas exister dans le corps. Je suis un être spirituel quand même, pas un être sensible. Je suis un être spirituel capable de dépasser mon corps. Ah, attention, attention. Vous dépassez votre corps, comment? En existant? Non. Vous n'existez pas en dehors de votre corps. Alors, mon âme est encore subsistant, est encore un principe? Oui. Mon âme est un principe, et ce principe ne se réalise, n'existe que dans mon corps. C'est une chose très étonnante, qui semble à première vue contradictoire. Si je suis principe, je suis premier, indépendamment de mon corps. Autrement, mon âme n'est pas principe. Si mon âme est première, elle est première. Ah, attention. Je distingue la saisie d'un principe et sa manière d'exister. Et sa manière d'exister, sa subsistance. C'est ce qu'on appelle la subsistance, la manière d'exister. Et c'est très important de distinguer les deux. Mon âme est principe, mais ce principe n'existe, ne se réalise, n'opère qu'avec mon corps. Situation très curieuse. Ça peut être une situation révoltante. Et certains se révoltent de ça. En disant, mon corps, c'est mon corps, mais c'est pas mon âme. Alors mon corps vient limiter l'activité de mon âme. Oui. Mais votre corps permet à votre âme d'agir. Votre âme ne peut pas agir sans votre corps. Ah, tiens. Manière d'exister. Votre manière d'exister, c'est d'exister dans un corps. Vous voudriez bien exister à la manière de votre âme, c'est-à-dire d'exister d'une façon purement spirituelle, indépendamment de mon corps. Mais cela n'est pas réaliste. Revenez à l'expérience. Toutes vos expériences dépendent de votre âme et de votre corps. Les expériences les plus profondes, je dis, mon corps ne pénètre pas dans cette expérience. Je le dépasse. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'abstraction, mais la distinction. Je distingue mon âme et mon corps. Et c'est cela qui est l'ultime subtilité métaphysique. Distinguer la substance comme principe d'être et distinguer ma manière d'exister. manière d'exister, c'est facile à comprendre. Hein, ça. Il n'y a pas d'abstraction. Ma manière d'exister. Réfléchissez sur votre existence de la journée, votre manière d'exister. Votre manière d'exister, c'est, vous êtes bien obligé de faire attention à votre corps. Votre corps vient limiter votre manière d'exister. À cause de mon corps, je suis fatigué. À cause de mon corps, je dois manger. À cause de mon corps, je dois dormir. Dormir-t-on ? Je n'ai pas envie de tout manger. Je n'ai pas envie de tout dormir. J'ai envie de rester à... Faites l'expérience. Au bout d'un certain temps, vous verrez que vous ne pouvez plus vivre sans votre corps. Vous aimeriez bien vivre sans votre corps. Vivre spirituellement. Vous voyez, arriver à distinguer le TST du principe, le TST du principe, le principe c'est cela. Et sa manière d'exister, son pos, c'est sa substance, sa manière d'exister. Distinction capitale. Heidegger a été très loin dans sa recherche philosophique, mais il a calé quand il s'agissait de dépasser sa manière d'exister pour saisir le principe dans toute sa pureté. L'être, oui, l'être, l'être n'est pas lié toujours à une manière d'exister. Vous ne pouvez pas identifier l'être et la manière d'exister. Vous devez faire une distinction entre l'être pris en lui-même et les principes. Et sa manière d'exister. Sa manière d'exister. C'est plus concret, hein. Sa manière d'exister psychologiquement. Tout ce qui est psychologique, c'est ma manière d'exister. Tout ce qui est psychologique. Le psychologique n'atteint jamais l'au-delà de ce qui existe, c'est-à-dire le principe. C'est là où vous voyez la limite du psychologique. Le psychologique demeure dans ma manière d'exister. Et je considère ma manière d'exister comme un absolu. Si vous considérez votre manière d'exister comme un absolu, Dieu n'existe pas. C'est vous qui existez. Vous êtes l'être suprême. C'est vrai. Dans votre manière d'exister, vous êtes petit principe, petit roi. La manière d'exister, c'est la manière la plus noble d'exister. Ma manière d'exister, c'est la manière la plus sympathique d'exister. Ma manière d'exister, c'est le maxime étalé. Oui, oui, maxime étalé, mais ce n'est pas l'être. Ah. Au-delà de ma manière d'exister, je suis. Au-delà de la manière d'exister, ceci est. Et ceci est, n'est pas une manière d'exister, c'est l'être lui-même. Voyez, c'est assez subtil d'aller jusqu'au bout de la distinction du qui est-il, ceci est, et du pose, comment cela est. C'est l'ultime distinction. Mais c'est une distinction capitale, ça. Vous voyez, au fond, la recherche de la substance, elle est tellement difficile que lorsque j'atteins l'ultime, je m'arrête. Ah, faites attention. L'ultime n'est peut-être pas l'ultime à ce moment-là, c'est encore vous. quand vous atteignez votre ultime manière d'être, vous pouvez réfléchir sur votre manière d'être. Quand vous réfléchissez sur votre ultime manière d'être, ce n'est pas encore l'être. C'est votre manière d'exister. Il faut distinguer et arriver à distinguer, à discerner la différence de ma manière d'exister et ce qui est mon être. Mon être, il s'impose. Ma manière d'exister, c'est mon avoir. Ah, tiens. Être, avoir. D'une façon tout à fait subtile. C'est pour ça qu'on aime tellement sa manière d'exister. C'est notre avoir. Et on a toujours la tentation de considérer qu'on est l'être. On est l'être pour nous-mêmes, mais pas pour les autres. Ah tiens, oui. Tout ce que je suis, c'est ma manière d'être. Je ne peux pas exister en dehors de ma manière d'être. J'existe dans ma manière d'être. Mais alors, l'autre, qu'est-ce qu'il est ? Il n'est pas ma manière d'être, il est autre. J'ignore sa manière d'être. Attention, je distingue ma manière d'être et l'être. Et l'autre existe. Si je demeure dans ma manière d'être comme l'absolu, je n'atteins plus l'autre. Je reste toujours enfermé en moi. Je suis sans doute très très important, très intelligent, mais c'est ennuyeux de dire que je suis le seul intelligent. Ma manière d'être. L'autre n'est jamais ma manière d'être. Et donc, si j'identifie manière d'être et être, j'ignore l'autre. Et j'affirme qu'il n'y a que moi. C'est monstrueux. Je n'atteins plus l'autre. Alors, par le fait même, il n'y a plus d'éthique. Quand l'autre n'existe plus, il n'y a plus d'éthique. Vous avez une fausse métaphysique où vous êtes le seul maître.